RFI, toujours à vos côtés pour vous informer. Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile et avec moi, pour le présenter ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Dans les titres de l'actualité de ce vendredi 9 juin 2021, l'arrivée de Joe Biden au Royaume-Uni. Le président américain entame sa première tournée à l'étranger. Plusieurs rencontres sont au programme, à commencer par le sommet du G7.
La Birmanie s'enfonce dans la crise. Augmentation des prix, manque de billets de banque. 4 mois après le coup d'État, le mouvement de contestation souffre désormais au niveau économique.
La Belgique respire enfin, comme en France. Les mesures sanitaires sont allégées depuis ce mercredi. Au niveau local, certains peuvent même enlever le masque désormais.
Et puis du tennis, bien sûr, Sébastien, avec la suite du tournoi de Roland-Garros. Rafael Nadal qualifié, Novak Djokovic joue ce soir.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Et le président américain est bien arrivé en Europe.
Joe Biden a quitté Washington ce matin. Il s'agit donc de son premier déplacement à l'étranger. Et la première étape de ce voyage est au Royaume-Uni, où il participera au sommet du G7, la rencontre des 7 puissances économiques. Joe Biden est ensuite attendu à Bruxelles et à Genève, où il rencontrera Vladimir Poutine. Avec cette tournée, Anne Corpé, le président américain souhaite rassurer ses partenaires européens sur le soutien américain.
America is back. L'Amérique est de retour, répète sans cesse Joe Biden. Le président souhaite tourner la page Trump et renouer une alliance solide avec ses partenaires. Juste avant de décoller pour l'Europe, il a réaffirmé son intention de faire savoir clairement à Vladimir Poutine et à la Chine que les États-Unis et l'Europe étaient soudés. Joe Biden a ajouté qu'il allait annoncer une stratégie mondiale de lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais le président américain devra faire plus que des discours pour convaincre ses partenaires. L'ombre de son prédécesseur plane toujours et l'emprise de Donald Trump est telle sur le parti républicain que nul ne peut prévoir si le retour des États-Unis sur la scène internationale est durable. La collaboration accrue envisagée entre l'Europe et les États-Unis sur la lutte contre le réchauffement climatique pourrait par exemple être remise en cause par le résultat de futures élections aux États-Unis. Joe Biden annonce aussi sa volonté d'unir les alliés, mais sa capacité à rassembler a montré ses limites ici. Malgré les efforts de concertation du président, le pays reste profondément divisé. Anne Corpé, Washington, RFI.
Et pendant ce temps, justement, la vice-présidente américaine fait face aux critiques.
À peine rentrée hier de sa tournée au Mexique et au Guatemala, Kamala Harris est vivement critiquée par le camp républicain. Son déplacement était centré sur la question de l'immigration. Et ses opposants lui reprochent de ne pas s'être déplacé à la frontière pour constater par elle-même les conséquences de cette immigration. Kamala Harris a rejeté ces critiques.
En Birmanie, plus de 4 mois après le coup d'État, le mouvement de désobéissance civile se poursuit.
Mais la situation commence à être très difficile pour des centaines de milliers de Birmans qui ont perdu leur emploi dans une économie à l'arrêt. La population a de plus en plus de mal à se procurer, à acheter des produits de base. Le prix des aliments augmente, le prix de l'essence augmente et les liquidités viennent à manquer. Les retraits des billets sont limités dans les banques. Résultat, les Birmans se préparent à une crise qui risque de durer longtemps. Écoutez le témoignage anonyme d'un informaticien qui vit à Rangoon, la capitale.
Il est devenu extrêmement difficile d'avoir du liquide. Vous pouvez voir chaque jour de longues files d'attente devant les distributeurs, des gens qui attendent dès 4 heures du matin et toute la journée pour pouvoir retirer de l'argent. C'est devenu très compliqué d'avoir de l'argent liquide. C'est un réel problème. Aussi, toute la chaîne d'approvisionnement est perturbée et les biens et services en provenance d'autres pays sont devenus limités. En raison des bombardements de l'armée et des déplacements de population, le transport des biens entre les villes ne fonctionne plus comme avant. Et puis comme il est très difficile d'avoir de l'argent liquide, vous devez payer plus cher les produits de consommation. Parfois, il est possible de payer avec sa carte de crédit ou via votre téléphone portable, mais cela coûte plus cher. Et si vous voulez vous procurer du liquide, vous devez payer des taxes additionnelles qui s'élèvent à environ 10%. Résultat, le coût de la nourriture devient plus cher, ce qui fait que l'on ne dépense plus comme avant. On doit faire attention et n'acheter que le strict nécessaire. Beaucoup de gens ont perdu leur travail et les gens font très attention à leurs dépenses.
Le témoignage d'un informaticien à Rangoon, contacté par Yelena Tomic.
Et on ouvre la page Covid, Sébastien, une page Covid avec une information dans les journaux américains.
Les États-Unis devraient acheter 500 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour les donner ensuite à d'autres pays. C'est en tout cas ce que croient savoir le New York Times et le Washington Post. Washington Post, selon lequel le président américain doit faire cette annonce lors du sommet du G7.
Et de son côté, le Parlement européen valide le certificat Covid.
Oui, les députés européens ont donné leur feu vert final au certificat numérique Covid. Gratuit, et prouvant qu'une personne a été vaccinée, qu'elle a passé un test négatif ou qu'elle est immunisée après une infection. Ce certificat est destiné à faciliter les déplacements cet été dans l'Union européenne, en évitant des quarantaines, des isolements dans les pays de destination. Il revient maintenant aux États de mettre en place ce certificat d'ici le 1er juillet.
Et en France, le Premier ministre à l'isolement, justement.
Jean Castex est ce qu'on appelle un cas contact, c'est-à-dire qu'il a été proche d'un malade, proche de son épouse précisément, testée positive au Covid-19. Le Premier ministre a quant à lui été testé négatif ce soir selon ses services. Il va tout de même rester en isolement durant 7 jours.
Et la France qui relâche justement la pression du confinement.
Nouvelle étape du déconfinement ce mercredi avec la réouverture des piscines, salles de gym, bars et restaurants sans terrasse. Le télétravail est également assoupli.
Une situation allégée en Belgique également.
Cafés et restaurants peuvent désormais servir leurs clients en salle, cinéma, salle de fitness peuvent ouvrir. Et à partir d'aujourd'hui, le port du masque ne sera plus obligatoire dans la totalité de l'espace public, au moins au niveau local, Pierre Benazé.
L'allègement du port du masque n'est qu'une mesure locale prise par les bourgmestres. Elle était d'ailleurs déjà appliquée depuis une semaine dans une poignée de communes flamandes, dont Knokke-le-Zoute par exemple. À Bruxelles, chaque commune applique ses propres mesures. Ça ne va rien faciliter, selon Youdi, qui a cherché sans succès des informations fiables.
Ouais, je vous avoue que c'est pas trop lisible parce que bon, on peut constater que là, on va voir une personne plus loin sans masque, une personne ici avec masque. On sait vraiment pas où est-ce que les mesures sont appliquées en fait. Donc je trouve pas ça assez lisible à mon goût.
Pour sa part, Pascal ne savait même pas qu'il y avait des zones facultatives ou obligatoire.
Moi, je travaille dans un hôpital, donc nous, on l'a toujours mis dans le métro, dans le train et à l'hôpital. Je trouve qu'il faut continuer à le mettre parce qu'il y a trop de gens qui soit le mettent en dessous du nez, soit en dessous de la bouche, soit pas du tout, soit ça n'importe quoi.
Il y a un mois, Nico manifestait contre les restrictions. Aujourd'hui, il trouve que le gouvernement a fait plus qu'écouter.
Ils voient comment ça se passe et puis ils adaptent avec des lois, qu'on a l'impression. Parce qu'il n'y a plus personne qui mettait le masque dans la rue presque. Et du coup, ils disent bon, ben on retire le masque dans la rue et voilà quoi. Ils voient que les gens se réunissent quand même à plein dans les parcs et du coup ils disent bon ben on va les laisser se réunir. C'est plus l'ambiance de la rue qui fait les lois.
Et avec l'ambiance estivale, le relâchement est partout, surtout dans les restaurants qui fêtent la réouverture de leurs salles. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et du tennis pour finir, Sébastien.
Et oui, la suite du tournoi de Roland-Garros en région parisienne. Raphaël Nadal s'est qualifié cet après-midi pour la demi-finale en battant Schwartzmann. Ce soir, toujours chez les hommes, Novak Djokovic opposé à l'Italien Berrettini. Éric Mamrut, vous suivez le match et Djokovic est bien parti pour rejoindre Raphaël Nadal.
Effectivement, Sébastien, puisque le numéro 1 mondial mène 2-1 face à Matteo Berrettini, l'Italien classé 9e dans la hiérarchie mondiale. Novak Djokovic est bien sûr le leader. Novak Djokovic a remporté les deux premiers sets 6-3, 6-2. On a eu droit à un festival du Serbe qui a véritablement livré une démonstration face à son adversaire, Novak Djokovic, qui est mené malgré tout dans la troisième manche, car l'Italien en face s'accroche. Berrettini, ce garçon d'1m96, très puissant, et qui pose des problèmes dans ce troisième set au Serbe. Donc 5-4 pour Matteo Berrettini. Novak Djokovic est au service pour essayer d'égaliser.
Et le résultat, ce sera bien sûr sur RFI. Merci à Zéphirin Quadio qui a présenté ce journal avec moi. Excellente soirée à tous sur la Radio du Monde.